deux, trois, pas. Bonjour le book club.
Là, tu as peut-être envie de ne plus rien ressentir. Peut-être même de ne plus jamais rien ressentir. Ce n'est peut-être pas à moi que tu auras envie de parler de ces choses, mais je pense réellement que tu as ressenti quelque chose. On doit s'arracher tellement de nous-mêmes quand on veut guérir plus rapidement. Mais t'obliger à ne plus rien ressentir, dans l'espoir de ne plus souffrir. Quel gaspillage.
Le book club.
France Culture. Le book club. Marie Richeux.
Plateau, premier roman aujourd'hui dans votre book club, on le dit à chaque fois, mais pourquoi ne pas le redire? C'est toujours une joie d'ouvrir un premier roman, d'écouter pour la première fois une voix d'écriture. Joie que nous sommes heureuses de partager avec vous. Rose Vidal et Naomi Walowitz sont donc autour de la table pour évoquer leur texte tout récemment paru. Rapport à la douleur, aux autres, rapport à l'adolescence, à l'amour, recherche formelle et théorique, tissu de pensée, trajet d'apprentissage, on trouve tout cela dans leur livre, dont nous discuterons évidemment ensemble. Ensuite, et comme chaque semaine, nous avons rendez-vous avec Mathilde Wagman. Elle est attentive pour nous aux parutions destinées aux plus jeunes lectrices aujourd'hui. Village gaulois, partout à Tisse, elle se demande pourquoi, 70 ans après sa création, la potion d'Astérix est-elle toujours aussi bonne? Et enfin, nous jouerons à chercher de la musique dans les livres pour le grand jeu des pages musicales. Il y en a dans ceux de nos invités. On est ensemble pour une heure. C'est chouette. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Rose Vidal.
Bonjour.
Votre roman Dramadol a paru aux éditions Gallimard dans la collection Aventure initiée par Yannick Hennel. Bienvenue dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir.
Merci à vous.
Bonjour Naomi Walowitz.
Bonjour.
Votre roman Les vies exemplaires, j'avais multiples qui est venu dans ma bouche, mais c'est un lapsus assez révélateur, a paru aux éditions POL. Bienvenue dans le Book Club, on est ravis de vous recevoir. On fait ici au Book Club connaissance avec nos invités par des portraits qu'on appelle des portraits de lecteurs et de lectrices. L'idée, c'est de se demander si quelques livres trouvés ou peut-être au contraire pas trouvés sur votre chemin ont joué dans votre parcours. Est-ce que vous voulez commencer par nous dire des livres que vous avez trouvés sur votre chemin, Rose Vidal?
Alors cette question me fait penser à un de mes grands moments de lecture. C'est peut-être le livre dont j'ai dit qu'il m'a appris que je savais lire. C'est Absalon, Absalon de Faulkner, que j'ai trouvé un peu par hasard dans la bouquinerie que tenait un écrivain, Eric Holder, dans un petit village en Gironde. Et j'ai ouvert ce livre en me disant, moi qui ne suis pas une grande lectrice, je vais le refermer bientôt, mais il va m'apporter au moins quelques jolies phrases.
Avec quelle intuition vous vous êtes dit ça? Parce que vous connaissiez ce nom de Faulkner?
Parce qu'il me semble que l'été précédent, ou quelques mois auparavant, ma mère m'avait lu quelques phrases que j'avais trouvées très belles.
D'Absalon, Absalon.
D'Absalon, Absalon. Et en me disant aussi que c'était un livre assez difficile à lire. Et je l'ai pris en me disant que ça va être trop dur pour moi. Mais au moins, peut-être que je vais pouvoir me couler dans quelques phrases. Et ce livre m'a happée, c'est-à-dire qu'en fait, pendant 5 jours, je n'ai été que dans ce livre, à la plage, au lit, partout, dans le jardin, dehors, dedans. J'étais dans ce livre et j'en suis ressortie en me disant « mais je suis capable de passer ce temps-là dans les livres », c'est-à-dire un temps intense que je n'avais que très peu ressenti, en fait, dans mon activité de lectrice.
Alors, quelle est la texture de ce temps si particulier dont vous découvriez à la fois l'existence et votre capacité à le traverser?
Du
temps de lecture.
Celui d'Absalon?
Non, dans la vie, en général. Ouais, vous avez,
oui.
Vous avez dit avoir découvert la possibilité de le vivre.
Oui, parce que quand je lis un livre, je suis plusieurs fils en même temps, des fils d'histoire, mais aussi des fils de mots qui m'attirent profondément. Les mots m'attirent profondément et souvent ils m'amènent ailleurs. Donc, garder le fil de l'histoire, le fil du livre, le fil du corps aussi qui tient le livre et qui s'y astreint, c'était assez difficile. Puisque chaque mot était une espèce de porte de sortie vers une envie de faire un dessin, une envie de bouger, une envie de m'arrêter, de réfléchir, de laisser flotter dans l'air. Donc j'ai toujours eu des difficultés à me tenir au livre et en même temps une grande affection pour l'objet livre. C'est-à-dire moi, dans la maison dans laquelle j'ai grandi, les livres étaient là et ils étaient à la fois au mur sur les bibliothèques, mais aussi dans les murs, puisqu'il y avait de grands placards avec des livres à l'intérieur. Et d'une certaine manière, moi qui ai un rapport aussi à la température, au chaud, au froid, il y a un côté moquette, moquette sur les murs, c'est-à-dire une espèce de zone de confort. De...
C'est Annie Lebrun qui disait ça en parlant des très très nombreux livres qui peuplaient son appartement, et je peux en témoigner. Elle disait que d'abord, au sens propre comme au sens figuré, cela lui tenait chaud.
Oui,
et c'était vraiment et en période de grande chaleur, ça lui permettait de pas crever de chaud non plus. Donc il y avait quelque chose en effet de très physique dans le rapport au livre.
Oui, ça fait un petit peu un cocon. C'est une épaisseur. Moi, c'est ce que j'aime dans le livre, c'est l'épaisseur du livre, l'épaisseur du texte. Et une troisième chose qui m'attire profondément dans le livre et qui aussi m'engage à souvent sortir de cette lecture, ou plutôt donc me dégage de la lecture, c'est les adresses. C'est-à-dire que quand je lis, j'ai envie d'envoyer des bouts à des gens. J'ai envie de récupérer des morceaux, de les envoyer, d'en parler. Et ça me sort du livre, ça me fait rentrer dans un espace qui est celui de la voix, des coups de téléphone, des SMS, des messages vocaux.
Du partage, en
tout cas. Du partage, ouais. Et puis d'une discussion aussi. Donc en fait, un régime de parole plus souple, mais aussi un espace d'activation de cette lecture-là.
Oui, d'ailleurs, à vous lire, vous, et à presque regarder plastiquement votre livre à vous, Rose Vidal, on y viendra, mais on pourrait même dire que vous êtes capable ou désireuse de former des réseaux. On sent que votre lecture, elle est active et que, en effet, pourquoi pas faire une photo d'un passage surligné, découper un passage. Enfin, il y a quelque chose de presque plastique aussi dans le rapport au livre.
Ah oui, oui, absolument. Et c'est... J'ai tendance à penser qu'en fait, le langage a déjà cette plasticité-là, au sens vraiment de malléabilité. On peut en faire ce qu'on veut et ça en fait un outil très puissant, une arme. Mais ça fait aussi qu'on peut y placer son plus grand désir aussi. C'est-à-dire qu'on peut y réaliser son plus grand désir ou son plus grand espoir ou sa plus grande ambition ou essayer d'y trouver aussi... c'est un petit peu cette chambre, aussi d'ailleurs très moelleuse dans le film de Tarkovsky, La chambre de Stalker, où se réalise le plus grand souhait ou le plus grand désir, si tant est qu'on puisse le connaître. La plasticité du langage, pour moi, elle réalise ça.
Épaisseur et plasticité. Que demander de plus? Pour ce qui est de votre vie de lectrice, Naomi Walowitz, est-ce qu'il y a des livres que vous auriez rencontrés sur votre chemin et qui auraient eu un rôle important ou au contraire des livres qui vous auraient marqué et ce manque aurait eu un rôle important?
Oui, il y en a eu énormément parce que ma vie de lectrice a été bien remplie depuis longtemps.
Bien que jeune.
Oui.
Je dis ça, je précise. Pour les jeux. Comme ça me permet de placer cette info qui est toujours délicate à placer pour moi, mais de dire que voilà, vous êtes quand même des autrices qu'on peut dire des jeunes autrices.
Relativement.
Voilà,
oui.
Relativement.
oui, alors... peut-être qu'une réponse intéressante, ce serait de parler d'un des livres qui apparaît en fait dans mon livre, justement, qui a été cité parce que il y a les livres qu'on lit, qu'on aime, et il y a ceux qui nous font écrire. Et ça, je pense que ça peut être assez différent. Parce que tout d'un coup, on retrouve une voix, une manière de travailler le langage qui tout d'un coup appelle en nous un désir de s'y mettre à notre tour. Et donc, dans mon livre, j'ai cité explicitement une seule autrice, qui est Lucia Berlin, qui est donc une autrice américaine qui a surtout écrit des formes courtes, des nouvelles, on peut dire, et pour moi, qui a eu un rôle, dont la lecture a eu un rôle libérateur par rapport à ma manière d'envisager l'écriture, à la fois par son traitement donc, de la longueur... du souffle, de l'ellipse, mais aussi parce que c'est une personne qui a eu des vies multiples, justement.
D'où mon lapsus.
Voilà. Voilà, parce que c'est effectivement, on va dire, une manière de travailler le récit qui me tient à cœur et qui m'a particulièrement touchée dans la manière qu'elle a de pouvoir écrire à partir de ces vies-là, comme si elle nous donnait à voir un peu des cartes postales ou des lettres, des choses qui nous donnent à sentir une texture, une atmosphère, avec des narrations assez épurées, mais quand même présentes et fluides. Donc c'est par exemple une autrice qui m'a marquée, il y en a eu beaucoup d'autres.
Est-ce que vous vous souvenez quand vous découvrez Lucia Berlin?
Oui, je pense il y a à peu près, je ne sais pas, 6 ans, je pense.
Et immédiatement, ça a joué le rôle d'un moteur
pour l'écriture. Oui, presque immédiatement. Mais il y en a eu d'autres, hein, des livres comme ça. Mais parce que j'aime beaucoup lire les classiques de de différents pays d'ailleurs. Mmh. Mais aussi, je pense que la littérature sud-américaine m'a aussi produit cet effet, en particulier, bah, rien de très surprenant, mais les grands, voilà, Borges.
Est-ce Cortés, que c'est quelque chose que vous diriez rechercher dans vos lectures ? C'est-à-dire l'idée que ça vous conduise vers votre propre écriture à vous ?
Oui et non, j'aime lire de tout. Je suis très curieuse, mais c'est vrai que je suis quand même toujours à la recherche, peut-être pas seulement par rapport à mon écriture, mais de voies qui vont m'emmener plus loin dans ma façon de percevoir le monde, simplement. Alors après, ça se reflète aussi par rapport au langage, mais pas que.
Quelle est la place qu'occupe la lecture dans votre vie quotidienne ?
La plus importante possible, selon les contraintes du jour.
Il n'y a pas de jour sans livre ?
Très peu.
Depuis longtemps ?
Oui, depuis longtemps. Après, je pense que vers l'adolescence, j'ai connu un petit passage à vide au niveau lecture, parce que je me situais entre les livres pour enfants et la littérature adulte, on va dire. Et je ne savais pas très bien comment me rapporter au livre à ce moment-là, mais je trouvais quand même...
Est-ce que vous vous souvenez du livre qui vous aurait permis de basculer dans ce que vous appelez la littérature adulte et qu'on appelle parfois la littérature générale ?
Oui.
Un livre qui vous aurait permis de franchir ce pas ?
Oui, je crois que ça a été le Rivage des Sirtes de Julien Gray.
Ah oui, donc vous l'avez franchi costaud.
Et Les Détectives Sauvages.
Ok.
Je sais pas, c'est ce qui a marché.
Ok, c'est ça qui vous a propulsé dans un autre territoire de littérature.
Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des... Surtout bon, pour Julien Gray, Bolanus c'est encore autre chose, mais une intrigue, une narration qui clairement ne se situait pas du côté d'une littérature jeunesse, mais dont je comprenais les enjeux et qui, de manière sensible, me tirait quelque part. Quoi.
Vous tenez, quoi.
Voilà.
Belle entrée en matière. Est-ce qu'il y a des jours sans livre pour vous, Rose Vidal ?
Oui. Il y a des jours sans livre, mais bizarrement pas les nuits, parce qu'il m'arrive très souvent de dormir avec un livre, que je l'ouvre ou non.
Et, près de vous, quoi ?
Oui, près de moi. Et j'ai vraiment ce rapport assez affectif, un peu doudou au livre. Et je viens de me souvenir que cette nuit, j'ai rêvé que j'essayais de réciter un passage des Essais de Montaigne que j'avais eu plaisir à apprendre par cœur un été sur mon vélo.
Un passage, pas tous les essais
non,
de Montaigne.
Non, vraiment ouais. Un passage, oui. Non, j'ai pas assez de mémoire pour
d'été.
Ça, parce que même un passage, c'est difficile.
C'est long, ouais.
Mais donc j'essayais de le réciter dans une gare et j'oubliais les mots. Et je me disais, mais pourquoi est-ce que j'essaie de le réciter dans une gare ? Mais bon, donc finalement, même lorsque les livres ne sont pas ouverts, d'une certaine manière, ils sont déjà ouverts en moi. Enfin, il y a toujours une espèce de proximité et de familiarité avec le livre, ne serait-ce que parce que c'est c'est cette affection. Un peu comme des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps, mais quand on y repense, on fait « Ah !»
Ils sont là.
Ils sont là.
On va parler de vos deux livres à vous, juste après ce titre de la musicienne Au Clou. C'est sorti en même temps que vos livres, tout début 2025. Dans cette chanson où elle demande qu'on la prenne par la main, elle dit aussi que tous les mots apparaissent sur la peau et que l'on peut sentir un corps qui parle, qui écrit presque.
Take me by the hand when the trouble calls a name and inspiration sends with an open door again.
Somewhere less lonely tonight, only away from life. Paradise lost, there's layers of dust hiding a touch of light.
Take me by the hand when the trouble calls a name and inspiration sends with an open door again.
If only I had listened enough, would have heard the words you whispered. Only a reflection of us could have worse the situation.
Sends with an open door again.
take me by the hand. When the crisis has no name, I'll turn off my head. Find the vital in the edge. Yeah. Take me by the hands. I'll turn off my head.
Only imperfections in love. Hidden words between the sentences.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Deux premiers romans aujourd'hui dans votre Book Club, mais allez savoir combien d'histoires. Dans les deux romans que nous avons réunis, l'épaisseur et la pluralité des récits servent le sujet individuel ou la voie d'écriture. Les souffrances, l'amour ou la douleur ne traversent pas seulement un seul corps, un seul cœur, une seule psyché, une seule foi. Elles en charrient l'histoire même avec laquelle il s'agirait aussi de composer pour accéder à une autre étape, un autre état de son parcours. C'est un des points communs de vos deux livres que nous n'allons pourtant pas chercher artificiellement à rapprocher, leur principal point commun étant surtout d'être des premiers romans. Notons cependant que vous avez aussi en commun l'une et l'autre d'avoir été formés aux arts visuels, que vous pratiquez la recherche ou la traduction, et peut-être que c'est une des choses qui pourrait expliquer une certaine attention portée à la forme et qui nous intéressait. Dramadol, c'est le titre de votre roman. Rose Vidal, il a paru aux éditions Gallimard, et les vies exemplaires, ça y est, j'ai le bon. C'est le titre de votre roman, Naomi Walowitz, paru aux éditions POL. Dans ces émissions consacrées au premier roman, on s'arrête plus que d'habitude sur les titres, parce qu'un premier titre, c'est important, c'est aussi important qu'une première arrivée en librairie. Dramadol a un sous-titre, un roman sans histoire. Est-ce que vous voulez bien nous dire les raisons de ce choix ?
Oui, alors déjà, donc Dramadol, c'est un jeu de mots avec le tramadol, qui est un antidouleur. Et comme ça charrie aussi cet imaginaire du drame, et donc d'une narration dramatique ou dramatisée, j'avais aussi besoin de le contrebalancer avec cette indication de genre, sous-titre ou indication de genre. J'ai un peu laissé planer le doute ou
ça fait
l'ambiguïté.
Ça fait le double job,
mais en tout cas, c'est graphiquement sur la collection, c'est indiqué comme indication de genre. Mm-hmm. Et je me disais, ça permet de tempérer un peu ce côté dramatique du titre. Et en même temps, moi, cette formule, je l'entends principalement comme on dit d'une personne qu'elle est sans histoire. Ouais. C'est-à-dire aussi. Ça fait pas trop de remous, ça fait pas trop de vagues. Il y a quelque chose d'un peu crypté, un peu souterrain. C'est des histoires souterraines, y compris parce que j'ai écrit auprès d'histoires qui sont des histoires réelles, des histoires de personnes proches, des histoires de personnes auxquelles je tiens et que j'aime, et que ces histoires-là, d'une certaine manière, je n'ai pas et je ne voudrais pas, et ce n'est pas l'enjeu du livre, mais je n'ai pas à les dramatiser. Mmh. Et elles ne sont pas dramatiques parce qu'elles sont aussi la matière même de leur vie et une matière qui souvent passe en arrière-plan. Parce qu'on n'a pas non plus envie que la vie, ça soit que de la souffrance, et peut-être pas non plus envie de construire des identités, que ça soit celle des identités de personnes ou des identités littéraires de personnages, sur de la douleur. Ça ne m'intéressait pas, en fait. J'avais envie d'évacuer cette idée d'une identité qui serait fondée sur des douleurs. Je préférais travailler des identités qui soient aussi entre les personnages, c'est-à-dire, par exemple, dans la relation que je peux avoir avec ces personnes, ou alors les relations que les histoires de ces personnes ont entre elles, ou les relations qu'on a, en fait, lorsqu'on éprouve de la douleur ou de la joie, à quel moment ces histoires-là nous mettent en relation avec d'autres histoires qu'on ne vit pas.
Et je rajouterais une relation qui est celle que finit par entretenir le texte avec nous qui le lisons. Et quant au mot doll, le mot poupée, juste pour préciser que ce n'est pas un seul mot, dramadol, mais que voilà, il y a aussi quand même ce mot-là qui fait appel à quoi pour vous ?
Peut-être un côté assez pop aussi, mm-mm, du titre. Je ne sais pas si on le perçoit toujours, ce ton un peu pop du livre, mais je crois que c'est aussi cette façon de naviguer entre les formes, elle est déjà pop pour moi.
Et ça veut dire quoi pop pour vous? J'aurais dit moi quelque chose d'une sorte de modernité ou de contemporanéité. Ce serait quoi pour vous le pop?
La contemporanéité me parle beaucoup. Parce qu'elle est aussi cette manière de maintenir. Quand je dis maintenir, j'entends toujours tenir dans les mains en même temps. Donc vraiment maintenir ces différentes formes, ces différents espaces aussi, qui sont des espaces à la fois visuels, mais aussi langagiers. Donc,
ensemble, par le livre, quoi.
Par le livre. Donc, c'est-à-dire d'avoir une littérature qui se compose autant de SMS que de citations, que de références, que de morceaux critiques. Et c'est peut-être une autre métaphore formelle, mais et qui est assez galvaudée, mais le rapport du texte au tissu. J'avais envie de faire de ce texte un tissu dont les nœuds seraient des douleurs, et ces nœuds-là seraient à la fois à démêler, mais aussi assureraient que le tissu tienne, et que ce tissu-là puisse être un filet dans lequel je puisse attraper un peu les gens qui me lisent, que ces personnes-là trouvent à un endroit au moins, même microscopique, une petite prise, ouais. C'est-à-dire cette pensée-là m'a traversée aussi, je peux me l'approprier.
D'ailleurs, du côté sécurité comme du côté piège, ça marche dans les deux sens pour ce texte-là. Qu'est-ce qu'il en est de ce titre, Les vies exemplaires?
Oui, Les vies exemplaires, ça renvoie à plusieurs choses. D'une part, un des fils qui traverse les différents récits qui composent ce roman.
Oui, on peut déjà dire donc c'est une structure à quatre parties.
Voilà. C'est ça. Ce serait peut-être donc le passage presque initiatique, en tout cas la transformation, la recherche de métamorphose, et donc tout l'enjeu de trouver ou de s'accrocher à des personnes que l'on constitue comme modèle ou du moins comme exemple, et aussi dans plusieurs histoires ou à plusieurs instants. En tout cas, le livre est traversé par l'idée que parfois, dans un parcours de construction de soi, il y a une sorte de confusion ou de jeu de miroir entre l'amour, le désir et l'envie de devenir l'autre. On se sent tiré par des figures et porté par leur devenir, mais sans savoir si exactement c'est aimer ou c'est vouloir y tirer de la puissance, de la force, y retrouver des choses qu'on porte déjà en soi. Et je pense d'ailleurs que voilà, les narratrices sont toujours des narratrices féminines. Et donc je pense que c'est aussi un enjeu particulier du point de vue du genre aussi, cette manière de chercher parfois chez l'autre des rôles, des modèles, des façons d'être au monde qu'on sent en nous mais qu'on peine encore à exprimer à la première personne.
Est-ce que le mot exemplaire pourrait aussi renvoyer à quelque chose d'un peu archétypal? Est-ce qu'il y a quelque chose dans la construction de vos quatre récits qui veut former des exemples, mais là pas tant au sens de quelque chose à quoi on se référerait, mais d'un modèle un petit peu?
Oui, il y avait vraiment cette idée-là aussi d'exemple, aussi au sens presque de plusieurs, comme une série de pièces de production de quelque chose, et aussi... Enfin, le titre fait aussi référence à la vie de saints, des saintes ou des saints, qui était donc
un genre,
un genre à part entière, mais peuplé aussi de choses très extravagantes, mais en même temps toujours dans une idée de recherche par rapport à une place dans le monde, etc.
Elle a aussi exemplaire avec une autre manière de teinter ce mot-là.
Voilà, ouais. Et aussi quand même une touche d'ironie.
Un peu d'humour.
Un petit peu d'humour qui, quand même, j'espère, parsème ces histoires qui sont... Oui, il y a aussi beaucoup d'obscurité, mais...
Oui, voilà, elles sont exemplaires au sens où elles peuvent fabriquer des types, mais elles ne sont pas nécessairement exemplaires au sens où ils font des conneries un petit peu, vos personnages.
Oui, c'est exemplaire vraiment du point de vue des protagonistes. Voilà. C'est pas une injonction
à vous suivre.
À reproduire leurs errances.
On va écouter un extrait de votre livre, Les vies exemplaires, juste après une archive de la réalisatrice Sofia Coppola. Elle parle de la réalisation de son film Virgin Suicides, mais aussi de l'adaptation du livre de Jeffrey Eugenides.
Yeah, she ends up in the hospital after.
Dans une scène, Cecilia se retrouve à l'hôpital après une tentative de suicide et le médecin lui dit : Allons, qu'est-ce que tu fais là, ma chérie ? Tu es trop jeune pour savoir à quel point la vie est dure. Et elle le regarde et lui répond : Manifestement, docteur, vous n'avez jamais été une fille de 13 ans. Quand j'ai lu cette phrase dans les livres de Jeffrey Eugenides, j'ai su que j'allais l'aimer. et cela dès les premières lignes. Il est vraiment ancré dans le monde des adolescents. Et je me souviens de ce sentiment, à cet âge-là, quand le proviseur ou n'importe quel adulte vous prend de haut, s'adressait à vous avec cette condescendance, alors qu'il était évident que vous voyez les choses plus clairement qu'eux. C'est cette frustration d'être coincé, d'être enfermé dans un âge où on ne vous laisse rien décider, de ne pas pouvoir décider pour soi, tout en ayant une lucidité qui dépasse souvent celle des adultes qui, eux, prétendent tout savoir.
Un jour, il nous avait été répété que nous n'avions plus que quelques semaines, certains pour décider où ils voudraient aller par la suite, d'autres pour accepter où ils seraient envoyés. Si Sam et moi nous avions su, depuis longtemps, appartenir au premier groupe, nous venions seulement de découvrir que nous ne pourrions finalement pas aller au même endroit. Face à cette nouvelle stupéfiante, nous nous étions toutefois abstenus avec correction de demander de l'aide à quiconque, de peur d'attirer d'autres conséquences aussi terribles qu'inattendues. Tout le monde sachant bien que le choix était chose privée, pour laquelle il était si impensable de faire équipe que personne n'avait même jamais besoin de le préciser. Mais toutes les deux, il fallait que l'on puisse continuer ensemble, par loyauté et pour tous les plans que nous avions déjà. Des rêves que j'ai oubliés et de grands espoirs pour sortir de la ville le plus vite possible, pour lesquels il fallait calculer avec exactitude. Savoir choisir la bonne voie qui, seule, donnerait le droit et l'excuse pour dans 4 années, soit un peu plus du tiers du temps depuis lequel nous étions tous en vie. Partir loin de tout, ce qui suintait des murs, du néant qu'il nous semblait bien repérer dans les regards bienveillants, des plus vieux, précisément lorsqu'ils nous parlaient d'avenir.
Un extrait de votre texte, Les vies exemplaires, juste après la voix de Sofia Coppola, qui parle cette adresse comme ça d'une jeune fille de 13 ans à un médecin qui lui dit qu'il est bien trop tôt pour connaître la difficulté et la douleur de la vie, et qui lui dit, ça se voit que t'as jamais été une jeune fille de 13 ans. Vous parliez tout à l'heure de la manière dont ces 4 récits, Les vies exemplaires, s'intéressent à, vous avez dit tout à l'heure, même un désir de métamorphose. On entend ici que ce sont des moments interstitiels, le choix de l'orientation scolaire, puis tout à l'heure, dans un autre récit, il y aura un premier amour, puis éventuellement la difficulté des amitiés au moment de l'époque plus universitaire. Est-ce que ces moments interstitiels, ces moments de transformation, ça pourrait être une des lignes de force de votre livre, Les vies exemplaires ?
Oui, vraiment, avec le choix de s'intéresser aussi à des moments peut-être facilement considérés comme plus triviaux. Enfin, par exemple, c'était dans l'extrait... que l'extrait illustre un peu, par exemple, ces vies de collégiens qu'on peut très bien regarder avec hauteur une fois le moment passé. Mm-hmm. Mais qui, pour moi, les moments de jeunesse, pour moi, ont besoin d'une langue, justement, très, très particulière pour pouvoir leur restituer leur profondeur et leur épaisseur. Et pas juste les regarder depuis un regard d'adulte ou avec un langage qui les aplatirait.
Quand c'est passé, quand on s'en est éloigné, que ça pourrait éventuellement paraître anodin.
Voilà, c'est comme après, quand on entre dans le désamour et qu'on regarde rétrospectivement une histoire.
Comment ai-je fait ?
Oui, je veux dire, c'est très facile de revoir une expérience à la baisse avec des mots qui ne lui rendent plus les émotions qui la faisait vivre, en fait.
Ça veut dire que ça a été l'une de vos recherches littéraires, que de trouver la langue à la hauteur, pour reprendre un mot qui était prononcé tout à l'heure par Rose Vidal, du drame que ça peut constituer, par exemple, l'orientation scolaire, par exemple, choisir quelque chose pour sa vie, par exemple, tomber pour la première fois amoureux et faire une fellation ou embrasser quelqu'un, ce serait trouver les mots pour redire ce drame-là.
Oui, et pas que ce drame, mais aussi le monde dans lequel est constitué ce drame ou ce moment. Et effectivement, oui, ça a été un combat pour trouver la langue qui me semblait juste par rapport à cela, et qui n'en disait pas trop, ou qui ne plaquait pas des mots, des catégories qui ne me plaisaient pas, et qui dessinait comme un espace aussi dans lequel le lecteur avait quand même, je pense, la place pour... se formuler différentes hypothèses, différentes lectures, éprouver différentes sensations, pas que le texte soit une autoroute qui allait vers une conclusion, mais plutôt que la narration serve à constituer un espace, à restituer des relations aussi collectives, ça c'était important.
Mais justement, je reviens au pluriel de votre titre, Les Vies Exemplaires, et à cette structure des quatre récits. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette structure-là? Ce ne sont pas que des chapitres, on ne suit pas des personnages dans quatre temps de leur vie, non, c'est plutôt un tissu d'écho, c'est à nous de nous débrouiller, à fabriquer ou pas des liens entre ces récits-là. Qu'est-ce qui vous a fait choisir cette structure? Vous disiez tout à l'heure chez Lucia Berlin que vous aviez aimé la rencontre avec des formes brèves. Est-ce que ça a jouer, par exemple?
Oui, c'était imaginer que des formes brèves qui me semblaient être les seules manières pour moi de travailler à un moment donné, parce que c'était des questions de souffle, de pouvoir relire aussi d'une seule voix, d'une seule énergie, et pouvoir articuler ensemble un récit, mais sans entrer dans des temporalités de romans, comme quelque chose de plus lointain par rapport à une idée de narrative. Et ensuite, de retravailler l'ensemble et l'articulation de ces récits, non pas par la forme peut-être d'un récit bien articulé, justement, mais plutôt en tissant des fils par des personnages secondaires, par des thèmes, par des motifs qui parcourent le livre et qui, pour moi, aussi décentrent un petit peu de l'importance du personnage principal et de...
À qui il arriverait quelque chose.
Voilà, bien sûr qu'il arrive quelque chose, parce que la narration, c'est une forme, en fait, pour donner à lire et partager, mais peut-être le plus important n'est pas forcément la voix de la protagoniste, mais tous ces échos et ces miroirs qu'il y a avec d'autres figures qui l'entourent.
On va entrer dans votre texte, Rose Vidal, par un extrait. On n'est pas du tout au début, c'est un texte où vous exposez beaucoup, en tout cas la voix d'écriture expose ce qu'elle va faire, ce qu'elle t'apprête à faire, comment est-ce qu'elle le fait. On va jumper, on va sauter au milieu du livre avec un extrait où cette voix nous raconte la pose d'un stérilet.
Elle me prévient, ça va faire mal. En y repensant, je suis terriblement heureuse de pouvoir écrire « Elle me prévient ». Parce qu'elle sait, sans doute, comment, où, pourquoi ça va faire mal, où elle le sent. Je ne pensais pas qu'il y aurait du sang, il y en a eu. Je ne pensais pas que je hurlerais de douleur, mais j'ai hurlé. D'étonnement et de douleur. De l'étonnement d'une douleur que je n'avais jamais ressentie. En fait, j'étais bouleversée. Je ne crois pas que c'était tant physique. Ce qui me bouleversait, c'est de comprendre au fond insituable et utérin de mon corps une émotion, une tristesse, un chagrin, ou quelque chose de très mélancolique qui ne m'appartenait pas, ou du moins pas à moi seule. J'ai eu mal à un endroit plus vieux que moi, plus long que moi. Est-ce que c'est mon corps ou est-ce que c'est un corps de femme, un corps des femmes, de celles qui saignent, de celles qui ne saignent pas, de celles qui aiment, de celles qui n'aiment pas, de celles qui vivent et celles qui ont vécu, et des suivantes qui seront nos sœurs, nos filles, nos prochaines. Je ne sais pas, mais quelque chose dans ce trop-plein d'histoires cède comme un abcès. Et je me demande si ce serait cela, la douleur d'un accouchement, de mon propre enfantement.
Un extrait de votre livre Dramadol, Rose Vidal, pour attraper peut-être une des spécificités du projet d'écriture, à savoir faire se relier des douleurs spécifiques, des douleurs individuelles, des douleurs qui arrivent à une seule personne dans une histoire avec un faisceau de douleurs. Il me semble que c'est très bien, c'est palpable presque dans la description de cette pose de stérilet. Est-ce que vous voulez bien nous dire l'origine ou la manière dont vous avez travaillé votre livre ?
Je me suis laissée vraiment conduire par l'écriture. Je pense qu'on peut... Enfin, j'utilise l'écriture comme un outil à diverses fins. Et essentiellement, je pense quand même comme un outil de pensée. J'ai besoin d'écrire pour penser les choses. Et penser les choses qui m'obsèdent ou qui me titillent. Et la question de la douleur a commencé à me titiller à différents endroits. Notamment, pas directement pour des questions de ressenti, qu'est-ce que c'est que de ressentir la douleur, mais comme un sujet d'époque. Un sujet d'époque qui apparaissait aussi dans les récits contemporains, dans les récits des personnes, et aussi dans les récits littéraires, mais aussi dans les récits des œuvres d'art, et dans les récits presque économiques aussi, sous la forme, par exemple, de l'addiction aux antidouleurs. Et j'avais envie de tirer cette forme-là de l'addiction de son seul aspect physique ou physiologique, donc de la seule douleur physique, pour commencer à adresser une question qui est, à mon sens, beaucoup plus vaste et très contemporaine de qu'est-ce qu'on ressent et qu'est-ce que c'est que de ressentir en société, qu'est-ce que c'est que d'être addict en société et de se soigner en tant que société, et pourquoi est-ce que notre société, cette société-là, est-elle addict aux antidouleurs? Qu'est-ce qui fait si mal pour qu'on soit, en tant que société, addict aux antidouleurs?
Mais ce qui me semble assez important à faire entendre à nos auditeurs et auditrices, vous dites beaucoup depuis le début de cette émission... tenir en main, maintenir, voilà, tenir ensemble. Et vous tenez ensemble tout le temps dans ce texte-là les deux échelles. C'est-à-dire, oui, vous pensez qu'est-ce qui nous ferait autant souffrir en société pour que nous puissions autant être addicts, par exemple, aux opioïdes, aux antidouleurs. Mais vous ne lâchez jamais l'autre échelle, qui serait l'échelle la plus petite ou la plus grande, la plus individuelle, la plus singulière, c'est-à-dire l'histoire de... Emmanuel qui perd l'un des jumeaux à la naissance, mais aussi l'histoire d'un professeur en neurosciences qui raccroche la sensation de l'éloignement du petit homme, de la figure d'attachement la plus proche à celle de la prise d'opioïdes. Non, l'inverse, pardon. De la proximité du corps de l'objet d'amour pour le petit homme à la prise d'opioïdes et l'éloignement de l'objet d'amour au manque d'opioïdes. Donc, il y a quelque chose qui est comme tout le temps des allers-retours entre une pensée collective et historique et quelque chose de très singulier.
Je crois que la douleur demande ce geste-là. Ouais. Et moi, ça m'intéressait aussi donc sur un plan d'écriture, parce que la douleur me permet de faire ça avec l'écriture. Mmh. Et bon, alors, comment est-ce que j'ai écrit ce livre? Je me suis laissée vraiment bercer par les échos de la douleur, c'est-à-dire pourquoi est-ce que tout d'un coup la question des opioïdes ramène à l'attachement de la mère dans ce texte que j'ouvre de ce neurologue Nicolas Danziger. Mais aussi je me suis laissée embarquer par l'histoire d'Emmanuel qui m'a confié son histoire de manière très simple et de manière aussi très amicale. Au moment où je travaillais sur les antidouleurs, c'est ce que je raconte aussi dans le livre. Et au moment où je travaille sur les antidouleurs et que Emmanuel me confie son histoire, je me dis, Emmanuel va emporter mon livre. Et je me retrouve face à ce choix, est-ce que je laisse mon livre emporter par l'autre, Emmanuel, ou est-ce que je me cantonne à ce que j'avais prévu? Comme j'avais pas prévu grand-chose, mais que ça m'intéressait pas non plus, enfin, j'avais pas grand-chose à dire, j'ai suivi ce trajet-là, en fait, c'est un peu Emmanuel qui m'a prise par la main et je me suis dit, si elle me prend par la main, d'une certaine manière, si j'ai un geste à faire, c'est de lui redonner une main aussi. Mm-hmm. C'est-à-dire d'avoir cette espèce d'échange j'aime bien utiliser le vocabulaire, un vocabulaire un peu libéral, mais qui est aussi celui du commerce amoureux au XVIIIe siècle. C'est celui de l'échange, de la négociation, du commerce amoureux, mais ce vocabulaire aussi transactionnel. Donc j'ai essayé d'ajuster mon trajet d'écriture en essayant de faire circuler les choses, mais aussi de leur redonner la valeur, retrouver leur valeur, ça veut dire aussi leur place, ça veut dire les dire à leur juste valeur. On avait parlé de juste hauteur tout à l'heure, mais c'est...
Mais est-ce que c'est aussi parce que il y a quelque chose dans le thème de la douleur psychique ou physique, Rose Vidal, qui, comme vous le dites, nécessite? C'est-à-dire que là aussi, c'est deux choses ensemble. On entend bien un intérêt pour la forme et presque une politique ou une poétique de la forme. Mais en même temps, ce que montre votre livre, c'est que c'est pas possible de penser la douleur sans les autres. C'est pas possible de penser la douleur sans l'histoire de la douleur. Oui. C'est pas possible de penser la douleur de l'attachement sans l'ancienneté de cette question de l'attachement. C'est qu'on a vraiment l'impression que c'est aussi ça que, à la fois, vous comprenez et que vous nous permettez de comprendre. pas dans un langage théorique ou pas que théorique, mais en nous permettant d'éprouver tout ça.
Oui, pas que théorique, parce que la douleur, ça n'est pas que théorique, justement, et ça n'est pas trop théorique, justement. Et vous m'amenez à penser à quelque chose, je crois, qui est assez fondamental dans mon livre, qui est que la douleur, elle demande qu'on passe par les autres pour en parler. Et moi, c'est comme ça que je conçois l'écriture, auprès des autres. Et je me suis formée aussi à l'écriture, à force d'écrire des critiques d'art. Et c'était un plaisir pour moi, en fait. Je me sentais bien dans cette écriture qui est pas à l'ombre, mais dans le flanc, dans le sillage, dans le passage, auprès, dans la chaleur, dans la proximité d'une œuvre d'art, d'une personne pour qui on écrit. Et ça donne aussi une contrainte qui, moi, me facilite la vie en tant que créatrice. Je n'ai pas à tout inventer moi-même et je m'en remets aussi.
Mais alors, qu'est-ce que ça change d'un seul coup de ne plus écrire que dans le flanc d'une autre œuvre d'art, mais d'un seul coup, puisque ce qui vous réunit toutes les deux aujourd'hui, c'est de publier un premier roman, d'avoir affaire avec une certaine solitude. L'un et l'autre des livres a affaire d'ailleurs avec cette solitude, Rose Vidal.
Alors, je ne me sens pas particulièrement seule parce que c'est un livre qui est bourré de voix proches et plus éloignées aussi. C'est un livre qui génère des voix sur son passage aussi, c'est-à-dire que quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, ça a attiré à moi des histoires, ça a aimanté. Donc j'aime bien ce parallèle que me faisait remarquer Yannick Hennel entre aimer des choses et aimanter des choses, et d'avoir une écriture qui soit aimante. Et j'aime beaucoup cette idée-là, parce qu'en plus elle est formelle, on peut penser au magnet, à l'aimant. Et
au champ magnétique.
Et au champ magnétique. Mais tout ça, ça fait que le livre n'est pas un espace seul et c'est pas non plus un espace définitif. Moi, j'attends de ce livre que en fait, les gens le soulignent, s'en emparent, mais surtout me disent des choses, même des petites idées. La pire solitude du livre, ça serait le silence qui suit. Comme si on avait pris la parole dans un repas commun et puis personne ne répond.
Et qui renverrait d'ailleurs à quelque chose que vous explorez, qui est le silence d'avoir mal, parfois la douleur de devoir ou de pouvoir ou de ne pas pouvoir dire son mal et donc de préférer se taire. Il y a vraiment quelque chose aussi dans ce livre-là qui met des mots à des endroits très profonds, très anciens, très difficiles à atteindre et qui en effet demande à ce qu'il y ait une poursuite de ces mots-là. Je voudrais qu'on entende la voix de Julia, auditrice du Book Club. Elle a lu votre livre, elle vous adresse une question qui va pouvoir aussi être adressée à Naomi Lovitz.
Bonjour le Book Club, bonjour Rose Vidal. J'ai lu Dramadol et j'ai été bouleversée. Ce que vous faites, Rose Vidal, avec la douleur, la façon dont elle traverse le texte, c'est très puissant. J'ai trouvé que la narration devenait une sorte d'espace d'expérimentation. Et c'est justement cet aspect-là qui m'a beaucoup plu. Votre récit est enrichi de photos, de SMS, de captures d'écran, de citations, ce qui le rend terriblement vivant. Il y a aussi toutes ces références, comme celle au mythe de l'âme sœur, que vous reliez à l'image du corps fantôme, ce double invisible entre addition et addiction. Est-ce que pour vous, l'écriture vient aussi de là, de ce corps qui existe dans l'ombre du corps réel? Merci beaucoup pour votre réponse.
Merci à vous, Julia, pour cette incroyable et vertigineuse question. Rose Vidal, une écriture qui viendrait d'un corps à l'ombre du corps réel. Et on vous adresse la question après.
Ça me touche beaucoup, cette question est très précise et ce retour me bouleverse beaucoup. Mais oui, je crois que c'est très juste et je peux répondre à cette question à de multiples endroits. Et celui que je choisis, c'est que souvent, lorsque je parle, je prends par mimétisme les intonations, les expressions, les voix de mes proches. Donc des fois, c'est des voix très contemporaines, c'est des expressions en vogue, en pratique. Et des fois, c'est des tics de langage. Du coup, en fait, ça je dis beaucoup ça ensemble en ce moment. Et des fois, c'est simplement des façons de d'ouvrir la bouche, d'articuler, de cligner de l'œil, et toutes ces espèces de scories qui
accompagnent
le
langage.
Accompagnent le langage et puis qui tombent aussi comme une poussière. En fait, je pense qu'on reçoit beaucoup cette matière-là. Et cette matière-là, m'obsède quand j'écris. Je crois que j'écris avec cette matière-là.
Ça travaille votre écriture aussi ?
Oui, j'écris en entendant des voix en permanence, qui sont des voix de proches ou des voix que j'imagine aussi.
Et ce serait ça, le corps à l'ombre du corps réel dont parle Julia, c'est hyper beau. C'est un décor à l'ombre.
Oui. Et puis c'est un corps qui est fait de mensonges, de carabistouilles, de tromperies, d'errance aussi, c'est-à-dire un corps qui, dont on n'est jamais sûr de ce qu'il veut bien dire et à qui il a appartenu aussi. Donc des fois, et je pense qu'il faut faire gaffe à ça, parce que c'est aussi dans nos réactions, dans nos façons de prendre les choses, et c'est aussi très idéologique. Il y a des choses qui nous traversent, qui ne nous appartiennent pas, et la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est de le savoir et d'y faire attention.
Absolument. Naomi Walowitz, à cette question-là, d'une écriture qui viendrait d'un corps ou des corps à l'ombre du corps réel ? Corps très présent dans les vies exemplaires, à plein de moments de transformation de la vie des jeunes gens que vous écrivez.
C'est une belle question, effectivement. Je dirais que moi, cette idée du double, oui, je pense que c'est d'une certaine manière présent dans ma manière d'écrire. Peut-être parce que je me suis intéressée à cette partie de soi qui, pendant qu'on est occupé à vivre quelque chose, en fait, serait peut-être en train d'observer le reste, de ressentir... des choses sur les gens qui nous entourent, les paysages qu'on traverse, plein de choses, et qui, une fois l'expérience passée, en fait, reste comme peut-être le plus important, en fait, de ce qui nous est arrivé.
Mais qu'il y aurait une sorte d'inscription parallèle, voilà. Mais mobilisable dans l'écriture, c'était comme une souvenance que vous ne saviez pas que vous pourriez posséder, quoi, et qui reviendrait au moment d'écrire.
D'une certaine manière, et qui donnerait sens à des choses ou qui pourraient être le lieu dans lequel on trouve avec peut-être plus de justesse ou de précision des affects qui nous ont travaillés ou des modes de relations qu'on a entretenus, peut-être, je ne sais pas.
D'autant plus utile que vous disiez tout à l'heure votre désir de retrouver avec la charge suffisante, sans pouvoir dire la charge réelle, des moments passés. C'est-à-dire que finalement, c'est plutôt bonus si vous avez en vous un corps qui inscrit et qui garde des choses du passé. Ça veut dire que quand il s'agit de les retrouver par l'écriture, vous avez de la ressource.
Oui, ou c'est l'inverse, il faut l'écriture, sinon c'est plus un bonus, justement, je ne sais pas.
Il y a quelque chose qui s'allégerait, vous diriez, dans l'écriture, qui allégerait le... J'aime bien l'idée du corps à l'ombre du corps réel dont parle notre auditrice Julia.
Qui s'allégerait, oui, d'une certaine manière, dans le sens où peut-être c'est comme trié ou ordonné, ça a pris forme et on a fait quelque chose de ces matériaux qui étaient là et qui c'est une manière de les garder vivants aussi, parce que je rejoins peut-être une partie de ce que disait Rose, dans peut-être pas l'hommage ou l'adresse, mais quand même une volonté de retranscrire avec dignement quoi des expériences qui sont aussi des expériences d'amour, mais pas au sens romantique, mais au sens d'avoir eu un moment le cœur attaché à des choses, à des êtres, et de vouloir leur donner une forme pour que ces moments continuent à vivre à travers le temps, quoi.
Il y a un mot que vous avez prononcé l'une et l'autre, qui est l'adresse. On avait l'intention, mais le temps est trop court, de vous faire écouter une magnifique archive d'Hélène Cixous qu'on peut retrouver dans Les Avoies Nues diffusées sur France Culture, où elle parle d'une écriture où il y a toujours une adresse, une écriture qui est toujours hantée par quelque chose. Et elle nous a fait découvrir un mot hanté. Bon voilà, on voit H-A-N-T-E, mais aussi hanté au sens emboîté à quelque chose. Rose Vidal, est-ce que vous pourriez dire un mot, mais court, de la place qu'a l'adresse dans l'écriture de Dramadol?
Alors déjà, il y a que j'ai écrit d'abord pour Emmanuel, pour Loris et pour toutes ces personnes qui habitent et traversent mon texte, mais aussi parce que j'ai voulu le penser comme une série, une somme d'adresses, et notamment le chapitrage que j'espérais en fait que des gens puissent s'emparer d'un chapitre en se disant tiens, je vais l'envoyer à ma chine parce que c'est vraiment pour elle. Donc c'est ça aussi les adresses, c'est à quel moment on souhaite, comme une batte de baseball, on peut renvoyer le texte à quelqu'un d'autre.
Et que ça rebondisse. Le Book Club continue.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
vous avez toutes les deux regardé l'horloge en mode « Ah bon, déjà ?» Eh bien oui, déjà. Et comme chaque semaine, on vous retrouve, Mathilde Wagman, pour parler un peu de littérature jeunesse à ce micro. Bonjour Mathilde.
Bonjour Marie.
Et aujourd'hui, vous nous proposez d'aller relire un grand classique de la bande dessinée.
Et oui Marie, vous le savez probablement, aujourd'hui sort sur la plateforme Netflix la série animée signée Alain Chabat, en 3D et en 5 épisodes de 30 minutes adaptés de la bande dessinée de René Goscinny et Albert Uderzo, Astérix, le combat des chefs. Soit le 7e volet des aventures des irréductibles gaulois, prépublié sous forme feuilletonnée dans le journal Pilote entre l'automne 1964 et l'été 1965 et sous forme d'album l'année suivante en 1966. La sortie très médiatisée de la série est l'occasion de redécouvrir l'album original. Les éditions Hachette s'en saisissent pour le faire reparaître dans 2 éditions spéciales agrémentées de dossiers qui permettent aussi de découvrir le contexte et les coulisses de la création.
Alors, que raconte cet épisode des aventures du petit Gaulois ?
Les aventures d'Astérix peuvent se classer en 2 catégories. Celles pour lesquelles les héros quittent leur village et vont loin de chez eux, chez les Bretons, en Corse ou jusque dans l'Égypte de Cléopâtre, par exemple, et celles pour lesquelles ils ne partent pas. Le combat des chefs appartient à ce deuxième groupe. On reste dans le village et ses alentours, on en explore les coutumes et les personnages à fond pour l'occasion. Cela en fait une excellente introduction à l'univers de la série, un album à lire ou faire relire à des enfants qui ne le connaissent pas encore. Le tout est servi par une intrigue particulièrement bien ficelée, riche en suspense et en péripéties. Dans le camp romain de Babaorum, qui jouxte le village des Irréductibles, le centurion Langélus ronge son frein. Chaque nouvelle journée lui amène son lot de légionnaires cabossés. Il aimerait ne plus être ainsi ridiculisé. Son aide de camp lui souffle alors une brillante et machiavélique idée, soumettre Abrara Coursix, le chef des irréductibles gaulois, en organisant un combat des chefs, une coutume gauloise par laquelle le vainqueur s'attribue la tribu du vaincu. Pour le mettre en œuvre, ils font appel à A plus B Galix, chef d'un village voisin acquis à la cause des Romains. Et pour s'assurer de leur victoire, ils doivent neutraliser Panoramix, bien sûr, le druide, afin que celui-ci ne puisse plus fournir la précieuse potion magique. Alors qu'une colonne de légionnaires romains est envoyée dans la forêt pour le tuer, Obélix, voulant prendre la défense du druide, lui envoie par mégarde un menhir sur la tête. Le druide perd connaissance et à son réveil n'a plus aucune idée de qui il est, ni de la recette d'une quelconque potion. L'heure est donc grave pour les Gaulois, le village risque de passer sous la coupe romaine. Astérix et Obélix s'en vont faire appel au druide d'un village voisin, dont ils espèrent qu'il saura résoudre la situation, hélas, en vain. Heureusement pour finir, Panoramix retrouve ses esprits, A plus B Galix et les Romains sont vaincus.
Et pour quelle raison est-ce que l'album séduit toujours 70 ans après sa apparition d'origine ?
Premier élément fondamental, on le sait, Goscinny est un maître du jeu de mots, du calembour, et l'on trouve dans cet album ce plaisir de la langue qui commence bien sûr par les trouvailles sur les noms des personnages. A plus B Galix, Amnésix, Langélus pardon, et Perclus, ou encore mon favori, le légionnaire plutôt que Prévus. Mention spécial également au panneau Rome Sweet Rome qui apparaît sur le mur de l'un d'entre eux. Il y a en outre, comme toujours dans la série, plusieurs niveaux de lecture. C'est là le grand art de Goscinny, savoir s'adresser aux enfants et aux adultes d'un même tenant. Une partie des références réjouissantes pour les adultes n'est pas nécessairement perceptible pour les enfants, sans que cela ne gâche toutefois le plaisir pour eux. Dans cet album-ci, j'ai été très surprise de découvrir une allusion à la fois hilarante et glaçante à la période de la collaboration française avec les nazis. C'est ainsi que l'album s'ouvre. Au temps de l'occupation romaine, écrit Goscinny, il y avait en Gaule 2 sortes de Gaulois. Ceux qui acceptaient la paix romaine et essayaient de s'adapter à la puissante civilisation des envahisseurs, et les autres, les irréductibles, courageux, éteigneux, ripailleurs, bagarreurs et rigolards, c'est-à-dire donc la tribu d'Astérix. A plus B Galix, fan d'architecture gallo-romaine, est autrement dit un collabo. L'allusion est particulièrement nette lorsqu'on le découvre, incitant les élèves d'une classe de son village à faire le salut romain qui ressemble au salut nazi. Rappelons que 20 ans seulement séparent la parution de ces planches de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Pendant les 3/4 de cette histoire, les irréductibles gaulois sont par ailleurs dépossédés de ce qui fait leur force, c'est leur résistance qui est mise à l'épreuve. À la fin, lors du combat, au dernier moment, Astérix vient dire à Abrara Coursix que le druide est guéri et cela suffit à décupler les forces du chef sans qu'il ait besoin d'avaler la moindre goutte de potion. Il triomphe du seul fait de savoir qu'il peut triompher. L'idée est particulièrement vraiment belle. Mais l'intrigue laisse aussi place à une très grande liberté narrative et à des séquences hautement loufoques. L'édition de luxe que propose Hachette permet de découvrir quantité de documents d'archives passionnants. Parmi eux, les 15 feuillets dactylographiés du synopsis de l'album, signé Goscinny donc, où l'on peut admirer la précision de son style et de sa langue. On voit aussi, dans quelques feuillets du découpage reproduit, la façon dont fonctionnait le travail à quatre mains avec le dessinateur Uderzo. Enfin, véritable pépite est reproduite la double page du journal Pilote dans laquelle Goscinny avait raconté de quelle façon Obélix était tombé dans la marmite de potions enfant. C'est un grand récit rédigé en première personne dans lequel Astérix raconte son amitié de toujours avec Obélix, fils du tailleur du village et petit garçon moqué à l'école. Ce récit est d'autant plus émouvant qu'il est écrit un peu à la façon du petit Nicolas, autre merveille signée René Goscinny, né 10 ans plus tôt, dans les années 50. Alain Chabat s'est d'ailleurs inspiré de ce récit dans le premier volet de sa série animée. Alors après, avant, indépendamment de la série, plongée dans la marmite de la bande dessinée originale, la potion est toujours diablement aussi efficace.
Merci beaucoup Mathilde Wagman. Lecture jeunesse, votre chronique est à retrouver sur le site de franceculture.fr et l'appli Radio France. Pour un jeu que nous appelons le grand jeu des pages musicales dans le Book Club, nous cherchons de la musique dans les livres. On propose à nos auditeurs et auditrices de jouer avec nous. Et on joue aussi. On a trouvé évidemment de la musique dans vos deux livres et on termine avec un extrait de Dramadol de Rose Vidal. Une question que je me suis posée il y a quelques années, peut-on apprendre le monde par l'amour ? Entrer en sa connaissance par l'amour de quelqu'un, quelqu'une. Je crois, chaque fois que j'aime une nouvelle personne, mon monde s'expand. Si je t'aime et que tu n'es pas là, je te trouverai sans même le vouloir dans n'importe quelle aspérité autour de moi. En ton absence, le monde est toi, comme si tu regagnais ses étendues, battais ses pleins, soufflais son vide et nommais ses couleurs. C'est que si ta main n'est pas présentement dans la mienne, il ne me reste qu'à la chercher dans le monde et tes doigts dans le creux de ses conversations. Et si ta main est dans la mienne, il nous reste deux mains libres et tout un monde à découvrir. C'est sans doute cela qui me fait tant aimer la chanson « The Night » de Morphine. Pour la petite histoire, le mot « morphine » vient du grec « morphée » qui veut dire « forme », c'est « format ». Avec, est-ce qu'on sait pourquoi, deux phonèmes qui se sont inversés il y a très très longtemps. La chanson de la nuit est une chanson d'amour adressée à Lila dans la nuit. Mais Lila est absente, alors elle devient la nuit et ça donne « You are the night, Lila ». Et puis il y a ce moment qui est la plus curieuse des déclarations d'amour, c'est-à-dire la plus dérisoire et la moins désinvolte, Lila décline le monde. Elle se répercute, un son sur les bords du lit et les rebords de la fenêtre, un son qui court le monde et le frémit, rebondit les étoiles, un son qui permet d'un écho à l'autre de tâtonner dans le pitch dark et former une image comme un sonar. Il suffit de prononcer son nom et le monde s'ouvre sous les yeux. You're the night alive. A little girl lost in the woods. You're a folk tale, the unexplainable. Bedtime story, the one that keeps the curtains closed. And I hope you're waiting for me, 'cause I can't make it on my own. Merci beaucoup Naomi Walowitz d'avoir été avec nous.
Merci.
Pour parler de votre livre Les Vies exemplaires, paru aux éditions POL. Merci beaucoup Rose Vidal d'avoir été avec nous pour parler de votre livre Dramadol, roman sans histoire, paru aux éditions Gallimard.
Merci.
Au son, c'était Jean-Guilain Meige, à la réalisation Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club, émission que vous pouvez réécouter sur franceculture.fr ou via l'application Radio France.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet,
première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les mères.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Grosse. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.